Nous sommes dans la joie ici au Canada. Nous sommes dans la paix. Et peut-être que certains d'entre vous avez connu des temps plus difficiles pour les chrétiens dans votre pays d'origine. Mais en ce moment même, alors que nous pouvons nous réunir en paix, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui souffrent de la persécution. Certains doivent se cacher pour se réunir. Ils ne peuvent pas répandre ouvertement qu'ils sont chrétiens. C'est dangereux pour leur vie. C'est dangereux qu'ils perdent la liberté. Plusieurs même sont mis à mort à cause de cela. Ici, nous sommes en paix. On ne peut pas dire qu'on vit de grandes persécutions. Mais en même temps, il y a quand même une constante opposition face à l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Qui prend plusieurs angles. Satan n'a pas réussi présentement à tourner toute la société contre nous et de rendre la foi chrétienne illégale, mais ça ne veut pas dire qu'il est inactif. Et l'opposition face à l'Église arrive de toutes parts. L'évangélisation est très difficile. Si même on va cogner à la porte d'un couple québécois pour leur présenter l'Évangile, on risque d'être mal reçu. Et même on va être perçu comme des gens qui ne respectent pas leur confort, qui sont invasifs. On va être méchants à vouloir leur faire du bien et leur présenter ce qu'il y a de mieux pour eux. Au Canada, les droits et les libertés des chrétiens sont de plus en plus restreints. C'est de plus en plus difficile même d'élever nos enfants selon la foi chrétienne. Le gouvernement, dans les prochaines années, va le restreindre de plus en plus. Aux yeux de la société, être chrétien, avant, on disait qu'un bon citoyen, on pouvait appeler ça un bon chrétien. Maintenant, aujourd'hui, un bon chrétien, là, aux yeux de la société, c'est vu comme honteux, c'est méprisable. Ce n'est pas du tout une référence. C'est même... les chrétiens évangéliques sont vus comme des fanatiques, incapables de penser par eux-mêmes, qui se sont fait laver le cerveau. Et c'est même... ils sont même jugés comme étant méchants. On va jusqu'à dire même que la Bible est un livre haineux. Donc, il y a toujours de l'opposition, mais ça, ce n'est pas nouveau. Dans les derniers 2000 ans, depuis la venue de Jésus, l'Église a constamment été devant le fait qu'elle reçoit de l'opposition de la part de la société, de la part des autorités, depuis la venue de Jésus. Et dans notre étude de l'Évangile de Luc, on a vu un point tournant où est-ce que Jésus évangélisait toute la Galilée avec ses disciples. Une fois que cette tâche a été complétée, Jésus savait qu'il approchait de la fin de son ministère. Il a entrepris son dernier voyage vers Jérusalem, vers le lieu où son bourreau l'attend. Et sur ce chemin-là, c'est normal que beaucoup d'enseignements de la part de Jésus contiennent des éléments où est-ce qu'il montre que son ministère reçoit de l'opposition et il avertit ses disciples qu'ils vont recevoir de l'opposition. On le voit même dans la prière de Notre Père, où il enseigne à ses disciples de prier à chaque jour Dieu qu'il ne nous soumette pas à la tentation de l'ennemi. Donc, ça peut nous atteindre à tous les jours d'être tentés. Donc, on voit que c'est un combat qui attend les disciples. Ce n'est pas une belle croisière sur le fleuve tranquille. L'opposition de Satan est constante. Jésus va jusqu'à dire même que finalement, tous ceux qui ne deviennent pas ses disciples, qui ne sont pas dans son camp, qui ne sont pas ses amis, sont finalement dans le camp de Satan et sont ses opposants. Qu'ils le veuillent ou non, inévitablement, tous ceux qui s'opposent à Jésus servent les intérêts de Satan. Il a dénoncé vivement l'hypocrisie des chefs religieux à l'époque, les pharisiens, les docteurs de la loi, en dénonçant leur méchanceté. Et finalement, ils s'opposaient à lui à cause de cela. Il a enseigné à ne pas s'inquiéter, à ne pas craindre pendant qu'on vit sur cette terre. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que normalement on devrait s'inquiéter et qu'on devrait craindre. Si Jésus prend la peine de répéter cela à ses disciples, soyez sans crainte et Dieu va prendre soin de vous. C'est parce que les dangers, les attaques sont nombreuses. Il nous dit aussi de ne pas chercher de solution en se tournant vers la confiance en ses propres richesses. On se souvient de l'histoire qu'il a racontée où un homme avait construit de grands greniers puis il pensait qu'enfin il avait trouvé la paix, la sûreté. Et finalement, c'était folie parce que le jour même, son âme lui était redemandée. Donc, en tout moment, on guette le risque de mourir, finalement. C'est pour ça que Jésus enchaîne avec un enseignement sur la vigilance, que jusqu'à la fin, il est important de rester veillant, vigilant, éveillé, parce que c'est un combat réel, la vie chrétienne. Et on voit l'importance que le combat se tourne finalement dans la sphère de la spiritualité. C'est un combat spirituel, d'où l'importance de se repentir fréquemment, de demander pardon au Seigneur, avant qu'il soit trop tard, avant que le jour du jugement arrive. ont beaucoup d'enseignements de la part de Jésus qui montrent qu'il y a une opposition, que c'est un combat continuel contre l'ennemi, contre le mal. Le royaume de Dieu qui est venu par Jésus-Christ reçoit constamment l'opposition du royaume de Satan. Et dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un exemple où on voit cette opposition-là. Alors que Jésus fait un acte de bonté, il guérit une personne et il reçoit l'opposition, la critique. Donc, ça va illustrer justement ce fait-là. Et Jésus, tout de suite après, ce n'est pas un hasard, il va enchaîner avec deux courtes paraboles pour éclaircir la venue du royaume de Dieu et comment c'est censé se passer. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Luc 13, l'Évangile de Luc, au chapitre 13. Le troisième livre du Nouveau Testament. Chapitre 13, à partir du verset 10. Nous allons lire pour commencer jusqu'au verset 17, puis on va lire plus tard les deux paraboles. Donc, Luc 13, 10 à 17. Vous y êtes, presque. Jésus enseignait dans une synagogue, un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit et lui adressa la parole et il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, il dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite! Chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » Amen. Donc, on voit la scène, Jésus est dans une synagogue, une assemblée peut-être grande comme la nôtre ce matin, je ne sais pas, ou peut-être un peu plus petite. Il y avait beaucoup de synagogues en Israël. Un chef de synagogue, c'était celui qui présidait le culte, en fait. C'est lui qui organisait, qui dressait l'horaire, les programmes, qui s'assurait qu'on lise régulièrement l'Ancien Testament, et même qu'on parcourt tout l'Ancien Testament dans la lecture, qu'il y ait un enseignement de donner, que des psaumes soient chantés, qu'il y ait des temps de prière. Donc, le chef de synagogue, finalement, c'est lui qui veillait à l'ordre du culte. Donc, on comprend qu'il avait autorisé, si on peut dire, Jésus à enseigner ce jour-là, en le surveillant, bien sûr. Mais Jésus n'était peut-être pas connu dans cet endroit-là. Jésus se déplaçait jusqu'à Jérusalem. Mais pendant que Jésus donne son enseignement, probablement sur un des textes qui avait été lu, il remarque une femme qui est infirme. Donc, ça devait être très visible. Un genre de scoliose qui, avec les années, avait soudé la colonne vertébrale. Elle ne pouvait plus se relever. C'est toute une infirmité, là. Peut-être même qu'elle devait être portée. Je ne sais pas. Et dans sa toute connaissance, son omniscience, Jésus savait que ça faisait 18 ans que cette femme souffrait de cela. Et il savait en plus la cause de cette maladie. Ce n'était pas simplement une infirmité physique, c'était à cause d'un démon qui l'oppressait, un esprit qui la faisait souffrir méchamment et qui la rendait infirme. Jésus, qui sait tout, savait que la cause de sa maladie, c'était d'origine démoniaque. Ici, il ne faudrait pas comprendre que toutes maladies sont d'origine démoniaque ou toute infirmité. Mais dans son cas, elle, c'était cela. Et Jésus le savait. Donc, il est touché par cela. Il est ému de compassion envers cette femme. Et il adresse sa parole à cette femme. Donc, il arrête son enseignement, ce qui est étonnant, pour s'adresser à une femme, ce qui est encore plus étonnant. La foule devait être surprise. Et il décide de la guérir. Il lui déclare, « Tu es délivré. » On l'a chanté tantôt, hein, qu'on est délivré. On comprend le sens de la parole de Jésus. Elle était délivrée de son infirmité, mais on comprend que c'était plus que ça. Elle était délivrée de l'emprise démoniaque sur elle. Donc, Dieu, le Fils de Dieu, avait opéré une grande délivrance et il lui impose les mains et aussitôt elle est guérie. pas qu'elle avait un petit peu moins mal au dos, là, comme on voit certains miracles aujourd'hui. Là. Guérison complète, délivrée des liens de Satan. Donc, elle se réjouit. Elle glorifie Dieu. C'est étonnant ici. Le texte aurait pu dire qu'elle glorifie Jésus ou qu'elle le remercie. Mais son réflexe à cette femme, c'est de glorifier Dieu. Pour elle, c'était automatique, c'était clair. Le miracle que Jésus vient d'opérer, c'est par la puissance de Dieu. L'œuvre de Jésus est approuvée par Dieu même. Ce n'est pas n'importe qui là, qui a fait ce miracle-là. Ce n'est pas n'importe quoi qui s'est passé ici. Elle glorifie Dieu. Et là, on doit comprendre que beaucoup de gens dans la foule enjoignent le pas et sont tout excités de voir cela. Ils sont émerveillés, peut-être se joignent à elle pour glorifier Dieu. Pourquoi on peut supposer ça? Parce que la réaction du chef de synagogue, lui, montre qu'il s'adresse à toute la foule pour leur faire un reproche. C'est étonnant quand même. Le chef de la synagogue aurait pu se réjouir de ce grand miracle qui est à la gloire de Dieu. Est-ce que justement le culte, ce jour-là, ne servait pas à glorifier Dieu? Mais au contraire, il est indigné. En tout cas, il semble très indigné, choqué. Puis il fait un reproche à toute l'assemblée présente. Ça veut dire que l'assemblée enjoignait le pas, je pense, à cette femme pour glorifier Dieu. Il leur fait un reproche. Il y a 6 jours pendant la semaine pour vous faire guérir. Il y a 6 jours pour faire tout son ouvrage. Ça, c'est une citation directe d'un des commandements de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Il a oublié le reste, par contre. On va y revenir tantôt. Il dit, venez vous faire guérir n'importe quand ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Il leur fait un reproche, en réalité, il fait un reproche directement à cette femme qui a péché en voulant faire cette action de vouloir se faire guérir. Mais indirectement, on voit qui il accuse. Hein? C'est Jésus. Jésus aurait commis un grave péché en faisant un travail le jour du sabbat. Donc, non seulement il fait un reproche à toute la foule, mais il rabroue Jésus. Même dans un sens, c'est comme s'il lui enlève l'autorisation de continuer à enseigner. Il reprend autorité. Là. Et qu'est-ce que Jésus répond? Hypocrite. Et là, c'est hypocrite avec un S. Donc, on comprend qu'il s'adresse non seulement au chef de la synagogue, mais à tous ceux qui sont d'accord avec lui. Peut-être qu'il y avait d'autres, il y avait des pharisiens sur place, des docteurs de la loi, peut-être même des sympathisants à leur cause, à leur autorité. Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Il semble quand même bien intentionné. L'indignation du chef de la synagogue était peut-être même sincère. Est-ce qu'ils ne sont pas justement en train de défendre la loi de Dieu, l'honneur de Dieu, en voulant insister sur l'obéissance au sabbat? Mais on se rend compte, Jésus, en fait, voit leur cœur. Et il voit la réelle motivation. Leur préoccupation principale, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est leur propre gloire en tant que personnage ayant autorité sur la société. Et maintenant, ce Jésus qui se présente ici est un rival. Donc, en réalité, lorsqu'ils font ce reproche-là, ce n'est pas pour défendre Dieu. C'est pour se défendre eux-mêmes en attaquant Jésus. C'est une bonne manière, ça, de se lever et d'abaisser les autres. Donc, Jésus dénonce, là. Leur véritable motivation, finalement, c'est d'attaquer Jésus, peu importe qu'il ait raison ou non. Ils ne veulent même pas savoir ce que Jésus en pense de est-ce que c'est permis ou non de guérir le jour du sabbat. Et on voit que Jésus ne prend même pas la peine d'essayer de se défendre non plus. Est-ce que son geste était correct ou non? On sait qu'il l'était. Mais Jésus va directement au cœur de ceux qui s'opposent à lui. Ceux qui s'opposent à lui, en réalité, ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont dans la volonté de Dieu ou non. Ils détestent Jésus. Ils veulent le réduire au silence. La preuve qu'ils sont hypocrites, Jésus l'a fournie, parce que tous ne peuvent pas voir leur cœur. Jésus a fourni une preuve très concrète, c'est que même le jour du sabbat, n'importe qui d'entre eux est prêt à détacher son bœuf ou son âne pour le mener jusqu'à l'abreuvoir et le faire boire pour le bien-être de sa bête, de son animal. Mais pourtant, c'est un travail, ça. Pourquoi ils sont prêts à faire cela? Ils ne sont pas prêts à aider cette pauvre dame parce qu'en prenant soin de leurs animaux, ils servent leur propre intérêt. Donc, leur opposition à Jésus même dévoile leur cœur méchant, égoïste. Et ça met en évidence leur méchanceté, leur manque total d'amour envers cette femme. Ils ne se soucient pas du bien-être de cette femme-là qui souffre depuis longtemps. Et même Jésus dit qu'elle souffre depuis 18 ans. Probablement, c'était connu même que ça faisait longtemps qu'elle était infirme. mais ils se soucient du bien-être de leurs animaux parce que c'est dans leur intérêt. Pourtant, comme Jésus le rappelle, cette femme-là, c'est leur sœur. Un membre du peuple de Dieu, une fille d'Abraham, héritière des promesses. Elle devrait être mise en honneur. On devrait prendre soin d'elle. Mais au contraire, elle est tassée. Tu reviendras un autre jour. Leur attitude, finalement, face à cette femme-là et leur indignation va même à l'encontre, à l'inverse de la raison d'être du sabbat. On lit dans Deutéronome 5, 13 et 14, « Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. » Pas le sabbat de l'homme, le sabbat de l'Éternel. Donc, un jour spécial pour se tourner vers Dieu, vouloir le glorifier, faire sa volonté. « Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. » Dans quel but? « Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » C'est ça le but. C'était que toute la maison, même les animaux, se reposent ce jour-là, puissent fêter, puissent adorer Dieu. N'est-ce pas que le miracle que Jésus a fait pour cette femme-là, c'était de lui donner le repos, enfin délivrée. Combien elle devait souffrir à tous les jours, là? En plus de la honte. Et même à l'époque, souvent les infirmes étaient considérés comme impurs. Peut-être même des gens n'osaient pas s'approcher d'elle. Mais là, elle était enfin délivrée de ça. C'était un grand repos pour elle, là. Ça devait être sa première requête dans ses prières. Donc Jésus, en faisant cela, était vraiment dans l'essence même, dans la raison d'être du sabbat. Mais la bonté de Jésus, justement, dans cet épisode, met en évidence la méchanceté de ceux qui s'opposent à lui. La justice de Jésus, en faisant ce qui est juste, ce que Dieu aime, ça met en évidence l'injustice des hommes, l'égoïsme, et ça les condamne, finalement. Jésus a simplement mis en évidence leur méchanceté. Il n'a même pas besoin de les condamner. Ils se condamnent eux-mêmes et ils sont honteux. Ils sont confus aux paroles de Jésus. Ils ne savent pas quoi répliquer. L'assemblée se réjouit de tout ce que Jésus a fait, puisque ses œuvres sont glorieuses. Les œuvres glorieuses, c'est le contraire des œuvres qui amènent la confusion et la honte. Ce que Jésus fait amène l'honneur, la gloire, la réparation, la justice. Mais dans peu de temps, même si là, la foule se réjouit, dans peu de temps, les disciples vont être confrontés à la dure réalité que leur maître va trouver l'opposition sur son parcours. Peu de temps après qu'il va rentrer dans les acclamations de la foule à Jérusalem, où on va crier « Hosanna », peu de temps après, il va être jugé comme un vulgaire criminel. Les gens vont inventer des faux témoignages contre lui. Il va même être mis entre les mains de Pilate, de Hérode, des gens païens. Ils ne croient pas en Dieu. Pour être jugé, condamné comme un criminel, mis à mort sur une croix, la mort la plus honteuse qui existait à l'époque et la plus cruelle physiquement aussi. Donc, les disciples qui savent que Jésus fait des actes glorieux vont être confrontés finalement au fait que Jésus est humilié, méprisé. Et eux aussi, alors que leur maître va être mis à mort, ils vont être dispersés, ils vont se sauver, ils vont fuir. Tous ces disciples vont fuir. Ils vont devoir se cacher pour se réunir. Alors que la majorité des Israélites va suivre les chefs religieux pour condamner Jésus. Comment le Messie, le Fils de Dieu, le roi, comme on vient de le chanter, Christ est roi, comment le Messie qui vient annoncer le royaume de Dieu, annoncer le jour du jugement puissant, peut tolérer une telle opposition? Normalement, un roi, là, il s'assure que les sujets disent du bien de lui. Dans une démocratie, on connaît un peu moins ça, là, il y a toujours une bonne partie de la population qui est contre le premier ministre et qui ne gêne pas pour le dire, mais dans un pays où c'est un roi qui règne, il y en a moins aujourd'hui, là, mais la population, d'habitude, est du côté du roi, à moins qu'il y ait un grand soulèvement. Là, mais un roi qui est glorieux sait tenir son respect dans le pays où il gouverne. Quand on pense dans l'Ancien Testament, les rois les plus glorieux qu'il y a eu, là, Nébuchadnezzar, tous le vénéraient, même il était adoré comme un dieu. Mais comment Jésus, qui se présente comme le roi, le Messie, peut tolérer une telle humiliation? Pourtant, il est tout puissant. Et il est même plus puissant que les forces du mal. Il peut chasser les démons d'une simple parole, d'un simple toucher. Il peut guérir. Pourquoi il n'utilise pas sa toute-puissance pour que le royaume de Dieu envahisse toute la terre, s'il le faut, par la force? D'un simple claquement de doigts, il pourrait faire en sorte que tous ses ennemis s'agenouillent devant lui. Le ministère de Jésus semble très modeste. Et c'est une chose qui saute aux yeux les premières fois qu'on lit les Évangiles. Très humble, en comparaison au système puissant de l'époque, qui était même dans un système encore plus puissant, l'Empire romain. Donc, que Jésus vienne annoncer le royaume du Dieu créateur, mais avec une si grande humilité, modestie, avec autant d'oppression, d'opposition, c'est étonnant. C'est pour ça que Jésus enchaîne tout de suite avec deux courtes paraboles. Nous allons les lire. C'est quatre versets, 18 à 22. 18 à 21. Luc 13, verset 18. Deux paraboles sur le royaume de Dieu. Il dit encore, c'est Jésus qui enseigne, puis on peut supposer qu'il est encore dans la synagogue. En tout cas, c'est la scène que Luc veut que l'on comprenne. Après le miracle, Dieu se tourne vers la foule. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de moutarde ou de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Des images toutes simples de la vie quotidienne à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus rare qu'on fait du pain, là. Mais les gens comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire. Et c'est des images qui restent imprégnées dans la tête. La première parabole, un grain de moutarde ou un grain de sénévé, à l'époque, c'était considéré comme la plus petite des semences là, qu'on pouvait mettre dans un jardin. Très petit, ça a l'air insignifiant. Une petite boule, là, la grosseur d'un pou. Mais lorsqu'elle pousse, elle donne un arbre qui peut atteindre 5 mètres de haut, très large, où on peut s'abriter sous son ombre. Les oiseaux qui viennent, ce n'est pas simplement une figure de style, les oiseaux viennent littéralement se cacher dans ses branches. C'est étonnant de penser que dans ce petit grain-là contient tout ce qu'il faut pour produire cet arbre. Tout le code génétique est là, tout le programme, dans une petite boule comme cela. Puis même, on peut concevoir facilement que lorsqu'on jette des graines comme ça, la petite graine est à la merci des oiseaux qui peuvent venir la manger. Normalement, une petite graine par terre, les oiseaux viennent manger ces grains-là. Mais quand elle pousse et qu'elle est finalement devenue un arbre, ces mêmes oiseaux qui l'auraient dévoré viennent se réfugier sous ses branches. C'est une belle image. Mais ça ressemble justement au royaume de Dieu qui a commencé de manière très modeste, qui semble pouvoir être dévoré à tout moment par les autorités, par Satan, par les démoniaques qui viennent et qui crient contre Jésus. Combien de fois Jésus a frôlé la mort, on l'a saisi, même on est allé pour le lancer en haut d'une falaise. Il semble très fragile. Ses disciples sont bien peu de choses, ne sont pas des gens très instruits, n'ont pas une grande influence. Ça semble très fragile. Le ministère de Jésus, le royaume de Dieu qu'il est venu entrer sur la terre, là, semble tenir qu'à un fil. Et même tous ses disciples, finalement, vont fuir lorsqu'il va être mis à mort. Le chef de cette secte, comme il l'appelait, lorsqu'il est mis à mort, tous pensaient que c'était fini. Et l'opposition est venue, autant de la part des Juifs que des païens. Finalement, c'est comme si tout le monde s'est tourné contre le Fils de Dieu venu sur terre. Ce qui fait penser justement aux oiseaux qui viennent dévorer la petite graine. Mais pour Dieu, une chose qui commence petit n'est pas méprisable. Ça ne veut pas dire que ça a peu de valeur. Au contraire, c'est souvent même la manière de procéder de Dieu. On lit dans Zacharie 4:10 que Dieu ne méprise pas le jour des petits commencements. Pour lui, ce n'est pas un signe que ça a peu de valeur. Et pour Jésus, son humiliation a fait place à la gloire. On l'a chanté ce matin. Contre toute attente, pourtant, il l'avait annoncé à plusieurs reprises. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Plusieurs l'ont vu. Même des centaines ont pu voir que Jésus était ressuscité. Ils ont marché avec lui. Il s'est élevé aux cieux dans une gloire, élevé sur les nuées. Même on a le témoignage d'Étienne qui l'a vu à la droite de Dieu. Il est à la position la plus élevée présentement. Mais le livre des Actes montre aussi, d'ailleurs le livre des Actes, c'est écrit par le même auteur. Luc a écrit cet évangile-là, et lorsqu'on lit le livre des Actes, on voit que ça suit tout de suite après. Et ce que Jésus a annoncé arrive dans le livre des Actes, tel que promis. Et on voit que le royaume de Dieu qui a été comme semé par Jésus a continué de grandir. Non seulement après que Jésus soit ressuscité, finalement les disciples ont été rassemblés, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le courage, ils ont enseigné, ils se sont multipliés, ça a fait une explosion. Ce qui avait commencé petit n'a pas cessé de grandir jusqu'à envahir tout le territoire d'Israël, jusque dans tout l'Empire romain, jusqu'à Rome, jusqu'à la ville de César. Et les Juifs et les païens trouvent un abri, finalement, sous les branches de cet arbre-là. L'Église qui s'est étendue dans tout l'Empire romain ressemble à un arbre, justement, dont la racine est Jésus. Et tous peuvent s'abriter sous son aile, bien, sous ses branches. Est-ce qu'il s'agit des convertis qui se joignent à l'Église? Sûrement. Mais on comprend que même les oiseaux, même les nations, même ceux qui ne sont pas encore convertis, bénéficient finalement de l'expansion de l'Église, du bien que l'Église fait autour d'elle, de la justice qu'elle amène, de la paix. Je pense qu'on est autorisé à voir dans les oiseaux comme un symbole de toutes les nations, parce que ça revient souvent dans l'Ancien Testament. L'image est souvent utilisée dans Ézéchiel, dans Daniel, pour parler des oiseaux qui viennent sous un arbre et ça représente les différents peuples, les différentes nations. Mais la leçon principale, ce n'est pas tellement les oiseaux, c'est le fait que l'Église, avec un petit commencement par le ministère de Jésus, bien modeste, a finalement explosé. L'expansion de l'Église a augmenté et depuis 2000 ans, l'Église ne fait que s'agrandir. L'Église universelle, oui, c'est sûr, beaucoup de nos frères et sœurs depuis 2000 ans sont décédés, mais la Bible nous invite à les considérer simplement comme dans un sommeil. Ils sont encore comptés dans l'Église. Ils sont dans l'Église universelle. Donc, l'Église universelle ne fait que s'agrandir de tous ceux qui sont convertis et que Dieu ajoute. La croissance n'arrête pas. Elle grandit, elle envahit. Et depuis 2000 ans, cette croissance qu'on voit dans les Actes s'est reproduite à plusieurs reprises dans différents coins du monde. C'est étonnant même de voir que parfois, là où la persécution est la plus forte, c'est là où l'Église reçoit une croissance la plus forte. Il y a souvent une corrélation. Donc, on voit qu'un début modeste pointe à une fin qui est glorieuse. Non seulement Jésus l'a annoncé que la fin est glorieuse, mais on le voit de nos yeux. Et la croissance de l'Église témoigne de cela, de la puissance de Dieu. Finalement, la fin glorieuse au ciel ou sur la nouvelle terre pour un règne éternel n'aura plus du tout d'opposition, plus de souffrance. Satan ne sera plus là pour tenter. Ça va être enfin le repos, enfin le sabbat éternel. Et toute honte sera disparue. Le levain, la parabole du levain dans la pâte, ressemble un peu, mais c'est un aspect un peu différent. Le levain dans la Bible est souvent associé à quelque chose de mauvais, comme quand Jésus dénonce le levain des pharisiens. Mais le levain en soi, c'est neutre. Ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est introduit et qui, par l'intérieur, va finir par envahir tout et produire un effet qui touche toute la chose, finalement. Pourquoi le levain des pharisiens est mauvais? C'est parce que leur enseignement pénètre dans le cœur, on l'écoute, puis ça vient de corrompre tout, corrompre nos pensées, nos désirs. C'est pour ça que Jésus dit de prendre garde de cela. Mais le levain du royaume de Dieu, qui vient aussi pénétrer par l'intérieur et envahir tout notre être, lui, il est bon. Il est purificateur. Donc ici, le levain est une bonne chose. Vous entendrez peut-être des interprétations de cette parabole qui dit que c'est une mauvaise chose, là, mais je ne crois pas. D'ailleurs, Jésus dit que le levain est comparé au royaume de Dieu, qui est bon. Donc le Saint-Esprit, comme le levain qui entre dans la farine et qui produit une réaction chimique. Ou bien, le levain, en fait, c'est un organisme vivant qui produit une réaction qui fait lever la farine avec le CO2 qui est dégagé. Et la pâte devient plus légère et ça fait un pain moelleux. Mais ce levain-là est comparé au Saint-Esprit qui entre dans le corps, dans le cœur d'un homme ou d'une femme, pour le transformer. Ou qui entre dans la société pour transformer les êtres qui sont touchés. Mais finalement, toute la farine, là, on doit comprendre que ce sont tous ceux qui sont touchés par l'enseignement de Jésus, qui finalement sont purifiés, sont convertis, qui sont nés de nouveau. C'est finalement tous les élus. Donc, le Saint-Esprit qui pénètre en eux, dans le cœur, vient produire une croissance spirituelle. Il vient comme faire gonfler la farine, la pâte. Mais c'est vraiment à l'intérieur. Donc, on parle de la croissance un peu comme la graine pour donner un arbre. Mais ici, l'aspect qui est présenté, c'est que le royaume de Dieu va principalement agir à l'intérieur. Même essentiellement agir à l'intérieur des hommes et des femmes. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être imposé par l'extérieur. C'est une grave erreur de vouloir imposer la foi chrétienne par des croisades, par des guerres. Le royaume de Dieu vient pour transformer les cœurs des gens. C'est ce que Jésus dit dans Luc 17, alors qu'il est interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer, comme un envahisseur qui arrive avec son armée. On ne dira pas, « Voyez, il est ici ou il est là. » Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ou on pourrait aussi traduire au milieu de vous. Au milieu de vous, ça indiquerait un peu plus que ça se passe dans l'assemblée des chrétiens. Au-dedans de vous, là, on dirait plus que c'est dans l'individu même. Mais les deux sont vrais. Donc je pense que les deux traductions sont possibles, ils sont vrais. Dieu va travailler autant dans le cœur de chaque chrétien, mais il va travailler dans leur cœur pour qu'ils forment une famille unie. Et finalement, ils travaillent dans toute l'Assemblée en faisant cela. Ils travaillent toujours à deux niveaux, mais toujours par l'intérieur de son Église, pour la faire grandir, pour que son témoignage se répande et se multiplie. Mais pour comprendre le sens de la parabole, pourquoi Jésus parle de cela, il y a un mot qui est important et qu'on ne trouve pas malheureusement dans la Louis II, 1910, mais c'est le mot « jusqu'à ». Il est écrit que la femme introduit la levure dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ou dans Louis II, c'est écrit pour que toute la... Pour que quoi? Pour faire lever toute la pâte. Bon, de toute façon, il y a le mot « toute ». Mais littéralement, c'est écrit « jusqu'à ». C'est que le levain va travailler jusqu'à ce que toutes les parties de la farine aient été entrées en réaction avec lui. Il va tout... Finalement, la pâte va toute lever. Il n'y aura pas juste un bout de la pâte qui va lever, puis le reste va rester flat. Le levain va finalement atteindre toute la farine. Toute la pâte va lever. Je pense que c'est ça le point principal ici de cette parabole toute simple, pour parler de la croissance. Ce n'est pas tellement pour parler de la fin glorieuse, mais pour parler de la fin qui est complète. Tous les élus vont être sauvés, intégrés à l'Église. Il ne restera pas d'âme qui aurait dû être sauvé, qui ne sera pas sauvé. On lit dans Pierre même que le Seigneur, présentement, il patiente jusqu'à ce que tout soit sauvé. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Là. Lorsque le Seigneur Jésus arrivera, c'est parce que finalement la pâte aura été levée au complet. On peut en être sûr. Finalement, rien ne va n'empêcher la levée de la pâte. Rien ne pourra l'empêcher jusqu'à ce qu'elle soit complète. Le Seigneur continue son travail jusqu'à ce que l'Église soit complète et parfaite. C'est pour ça qu'il travaille dans le cœur de chaque chrétien. Chaque homme, chaque femme née de nouveau, chaque enfant de Dieu, le Saint-Esprit continue son travail dans son cœur. Parfois, on dirait qu'il ne travaille plus dans notre cœur, surtout quand ça va mal. Quand il nous arrive des épreuves, des souffrances, même on peut avoir l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. Mais au contraire, c'est une preuve de son action. Même, c'est pour ça qu'on est invité à se réjouir, considérer l'épreuve comme un sujet de joie, c'est que le Saint-Esprit est en train de travailler dans notre cœur. Par la souffrance que l'on vit, il est en train de nous faire grandir, de faire lever cette pâte. Rien ne peut arrêter le travail de Dieu. Et c'est étonnant de voir dans le livre des Actes, que Luc a écrit, de voir combien l'expansion de l'Église, finalement, est le travail de Dieu. Le titre, c'est les Actes des apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui est le personnage principal dans tout le travail. C'est les actes du Saint-Esprit, finalement. C'est les actes de Dieu qui fait grandir son Église. Même la grande persécution qu'ils subissent dans la première Église à Jérusalem est voulue par Dieu pour que les chrétiens se dispersent. Et on lit dans le verset suivant que les chrétiens, partout où ils allaient, ils témoignaient et des gens se convertissaient. Finalement, ça a provoqué la grande expansion de l'Église dans tous les pays jusqu'à Rome. Et ce n'était pas terminé. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Non, Dieu continue son travail dans l'Église universelle et rien ne peut arrêter la croissance spirituelle des élus. C'est pour ça que Paul dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 3 à 7, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous de prier avec joie. » Pourtant, les Philippiens vivaient des difficultés eux aussi. Ils étaient pauvres, mais ils étaient généreux. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur. Et que dans mes chaînes, Paul était en prison lorsqu'il écrit cela, dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Cette grâce, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui a élu domicile, qui nous transforme, qui transforme nos pensées, notre intelligence, qui transforme nos priorités, qui nous fait échapper à ce cycle vicieux d'être égoïste, de penser à nos intérêts en premier. Ce qui était montré par le chef de la synagogue, qui pensait à ses intérêts. Heureusement, on lit que plusieurs, même des chefs religieux, se sont convertis par la suite. Ils sont devenus chrétiens. Ils ont connu cette même transformation-là aux yeux de leurs frères et sœurs. Paul est un exemple, justement, d'un homme au service des chefs religieux, de la secte des pharisiens, pour combattre l'Église. Et lui-même a été transformé par le Saint-Esprit. Le levain a pénétré dans son cœur. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il puisse dire, à la fin de ses jours, même Paul, « J'ai achevé le combat. J'ai terminé la course. » Par la grâce de Dieu. Donc, le travail est dans le cœur de chaque croyant qui sont unis dans l'Église. Donc, ne soyons pas découragés face à l'opposition. Et même lorsqu'on verra dans les prochains temps l'opposition grandissante face aux chrétiens au Canada, ne soyons pas découragés, même si elle vient parfois même de nos proches, des gens de la famille, des amis d'enfance parfois même, qui commencent à se moquer de nous, à parler dans notre dos, à dire des mensonges à notre sujet, à nous rejeter. Parfois, c'est au travail où on vit de l'injustice. Et surtout lorsqu'on fait le travail d'évangéliste, qu'on témoigne, on va voir de l'opposition. Jésus nous a avertis. Ne soyons pas découragés. Ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu risque de ne plus avancer, ne plus s'accroître. Il va continuer. Il va persister. Rien ne pourra l'arrêter. Et le travail que Jésus fait, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Jésus n'aurait pas donné sa vie pour n'importe quelle cause. Il a donné sa vie pour une cause qu'il croyait gagner. Il était convaincu que sa cause était juste et qu'elle était gagnante dès le départ. Mais pour cela, Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour faire de cette Église-là, qui est présentement méprisée, une Église glorieuse. Voulez-vous tourner avec moi dans Éphésiens 5? Nous allons conclure avec cela. Éphésiens chapitre 5. Verset 25. Éphésiens 5, 25. Ici, c'est une exhortation aux époux, aux maris. Mais je veux surtout qu'on s'attarde sur la suite. Pourquoi Paul dit cela? Ou la comparaison qui est faite. Paul dit, « Marie, aimez chacun votre femme. » Et quelle comparaison qu'il est donnée? Mais c'est à l'image de Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église méprisée, honteuse? Non, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Mais encourageons-nous en sachant que le travail de Jésus, le travail de Dieu, le travail du Saint-Esprit en nous ne s'arrête pas. Dieu travaille, ne prend pas de repos. Soyons confiants et louons le Seigneur pour cela. Sa grâce, parce que combien de fois nous ne méritons pas toute son attention, tout son secours. Amen.